France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission scientifique des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi pour ce rendez-vous avec votre intuition géographique, nous sommes ensemble et en direct de 16h à 17h.
Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous pouvez le constater, la situation météorologique ne s'arrange pas. En accord avec le ministre de l'Intérieur et la mairie de Paris, nous avons donc décidé de déclencher le plan de secours spécialisé inondation.
Madame la préfète, les Parisiens sont inquiets. Que pouvez-vous leur dire pour les rassurer? Et surtout, la situation est-elle vraiment sous contrôle?
Monsieur, cela fait presque une semaine que nos services diffusent quotidiennement des messages de prévention. La Seine vient juste d'atteindre le seuil de vigilance orange. Quant à savoir si la situation est sous contrôle, nous avons mis en œuvre tous les moyens techniques et humains pour l'affronter de façon optimale. Et croyez-moi, nous ne pratiquons pas la langue de bois, il y va de l'intérêt général. Merci pour votre attention.
S'il vous plaît, madame la préfète.
Du 7 au 18 mars dernier, les pouvoirs publics de France, d'Île-de-France et de Paris ont simulé une crue géante de la Seine. Le son qu'on vient d'entendre à l'instant est extrait d'un documentaire catastrophe qui a été réalisé et diffusé sur Canal+ en 2006 par Bruno Victor Pujbet. Il s'appelait Paris 2011, la grande inondation. Il est maintenant disponible en DVD. Mais c'est seulement cette année, donc en 2016, qu'on a fait cette simulation d'une crue géante de la Seine. Plus de 80 organismes et entreprises, dont celle de la Défense, le plus grand centre d'affaires d'Europe, ont participé à cet exercice grandeur nature de gestion de crise. Des sauveteurs venus de plusieurs États de l'Union européenne, dont la Belgique et la République tchèque, se sont mobilisés, étaient présents à Paris pendant cette quinzaine. Selon la préfecture de police de Paris, justement, qui, rappelons-le, est un service de l'État et non de la ville, le risque d'inondation constitue, après les attentats, le premier risque majeur susceptible d'affecter l'Île-de-France. Fin de citation. Rien que ça. Alors, n'en fait-on pas trop? Ou est-ce enfin la reconnaissance d'une réalité majeure, massive, mondiale de notre condition humaine moderne? Les mégapoles face au risque d'inondation, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Élément de diagnostic et de réponse avec Magali Righezza. Bonjour Magali Righezza.
Bonjour.
Magali Righezza, vous êtes maître de conférence en géographie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, auteur de l'ouvrage pionnier paru en 2012 Paris coule-t-il ? Il a été publié chez Fayard, je suis obligé de le dire en passant à mon initiative. C'est la transparence, n'est-ce pas ? Et c'est un livre formidable, j'hésite pas à le dire.
Merci.
Et pas seulement parce que j'avais été chargé de l'éditer pour Fayard à l'époque où j'y travaillais. Peu importe, parenthèse fermée. Ce qui compte ici, c'est que vous avez fait partie de la cellule de crise de cette opération EUCEQUANA 2016, c'est son nom, EUCEQUANA 2016, donc cette simulation de gestion de crise géante. Elle a été préparée 2 ans, elle a été déployée 2 semaines. Alors quel bilan la chercheuse fait-elle de cette simulation géante qui s'est achevée il y a 10 jours?
Alors d'abord, c'est la première fois effectivement qu'on a un exercice de cette ampleur, 15 jours. Pourquoi EUCEQUANA? EU, c'est pour Europe. Donc c'est la première fois aussi que l'Union européenne, qui chaque année finance 2 à 3 exercices de simulation, est intervenue comme financeur. Donc effectivement, il y a plus de 87 partenaires qui ont joué, alors qui ont joué de 2 façons. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle des jeux sur table, c'est-à-dire qu'on était, donc chacun a activé des cellules de crise pendant 1 ou plusieurs jours. Et puis on a joué sur un scénario fictif, ça ressemble en gros à un jeu de rôle, hein. C'est comme comme avec un maître de jeu, avec des animateurs, il y a des événements qui arrivent. Et puis pendant le week-end, par contre, on a eu 2 jours où là, on a eu des exercices sur site, évacuation de maisons de retraite, sauvetage d'une péniche, et puis une grande, plus exactement, plusieurs grandes opérations d'information à destination du grand public.
Et alors, ces 87 acteurs, c'est quel genre d'acteurs ?
Alors, on a tout le monde. Hein. Ça va du conseil général à la mairie, en passant par les grands opérateurs de téléphonie, RDF pour l'électricité. On a eu la SNCF, la RATP, des banques. On a eu aussi, alors j'ai pas le droit de citer les marques, mais des magasins de grande distribution qui se sont joints. On a les académies, les rectorats. On a eu des hôpitaux qui ont joué. On a aussi la mairie de Paris avec certains de ses services. Donc vraiment, c'est l'idée en fait était de faire dialoguer ensemble des acteurs privés et publics pour montrer que dans ce type de crise, comme tout le monde est dépendant de tout le monde, les plans des uns vont affecter les plans des autres. Et on a beau mettre en place une planification extrêmement efficace à son échelle, dans son entreprise ou dans son service déconcentré, ce qu'on va faire va forcément avoir une incidence sur les autres.
Et alors les fameux sièges sociaux des entreprises qui sont à la Défense, le plus grand centre d'affaires d'Europe, qui serait très touchés en cas de crue centennale.
Alors
c'est
tout le paradoxe de ce type d'événement, c'est-à-dire que en réalité dans ce type de crise, on a 2 crises en une. Et c'est très spécifique à Paris. On n'aurait pas ça dans d'autres mégapoles, dans d'autres régions mégapolitaines. Ici, on a un risque classique avec près de 870 000 personnes qui auraient les pieds dans l'eau directement, donc avec un problème de dommages matériels très graves et qui sont simplement liés à la concentration des populations dans des zones inondables.
Et là, vous parlez uniquement de Paris intramuros, on est sur l'Île-de-France.
Alors, je parle de l'Île-de-France. On est à peu près, les dernières estimations, c'est 870 000 personnes.
Sur 10 millions d'habitants.
Sur 10 millions d'habitants. Maintenant, on a aussi un autre type de risque qui fait que même quand on n'a pas les pieds dans l'eau, on est concerné. Et c'est typiquement le cas de la Défense. Le quartier de la Défense n'est pas inondable, mais s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus de transport en commun, s'il n'y a plus de climatisation, s'il n'y a plus d'eau potable, s'il n'y a plus d'assainissement,
téléphone.
De téléphone, d'internet, ça ne peut plus fonctionner. Et par exemple, un des enjeux de l'exercice était de voir si ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité des différentes entreprises et des différents partenaires étaient capables de fonctionner, dans la mesure où même si on a un très beau plan sur le papier, encore faut-il que vos salariés puissent venir travailler.
Question naïve, Magali Reghezza. Pourquoi, en cas de crue centennale sur Paris et l'Île-de-France, alors que le quartier de la Défense n'aurait pas les pieds dans l'eau, pourquoi tous ces réseaux, toutes ces infrastructures cessent de fonctionner ? Pourquoi il n'y a plus d'électricité à la Défense qui n'est pas touchée directement par l'inondation ? Pourquoi il n'y a plus de téléphone et d'internet ?
Pour deux raisons qui sont, alors là ça intéresse particulièrement la géographe que je suis, pour deux raisons qui sont liées à la métropolisation du territoire francilien. La métropolisation, c'est ce processus, cette dynamique urbaine qui fait que les espaces urbains se transforment en s'intégrant et pour s'intégrer à la mondialisation. Et pour ça, ils vont subir des transformations matérielles. À Paris, c'est notamment, on a construit en hauteur un urbanisme de ces grands immeubles. Alors la Défense est typique, ce qui impose un certain nombre de mesures de sécurité. On va aussi avoir le développement d'un urbanisme souterrain dans lequel on va faire passer les réseaux. Vous avez aussi une transformation...
Urbanisme souterrain, c'est-à-dire jusqu'à 7 à 8 niveaux
jusqu'à
sous le sol.
Jusqu'à 7 à 8 niveaux sous le sol.
C'est-à-dire quand on dit que Paris est un gruyère, c'est vrai.
C'est plus qu'un gruyère, c'est vraiment alors c'est enterré très profond. On a des sous-sols qui descendent jusqu'à 40 mètres de profondeur, avec donc une intrication des réseaux qui circulent. Le deuxième élément, c'est qu'on change complètement l'organisation spatiale de l'agglomération. Ça devient un archipel de lieux très dépendants les uns des autres. Aujourd'hui, en Île-de-France, on n'habite pas là où on travaille, on ne consomme pas là où on habite, on ne se divertit pas là où on travaille, où on habite, où on consomme. Donc vous avez cet archipel, exactement des îles reliées entre elles, de lieux très spécialisés, qui du coup sont très dépendants des réseaux qui permettent d'assurer les mobilités entre ces lieux.
Et alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les réseaux ne fonctionnent plus ?
Alors, ils ne fonctionnent plus pour deux raisons. D'une part, parce que comme ils sont dans les sous-sols, il y a des effets d'infiltration d'eau par la nappe phréatique, notamment, et puis par des intrusions de surface qui font que certains...
Allons-y pas à pas. Donc, effet d'infiltration d'eau par la nappe phréatique.
Alors,
comment ça marche ? Il pleut énormément.
Quand on a une inondation de la Seine, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la pluie. Classiquement, le fleuve déborde hors de son lit. Sauf que sous le fleuve et sous les pieds des Parisiens et des Franciliens en général...
Et sous les fameux 8 niveaux.
Les 8 niveaux sont à l'intérieur. Vous avez des circulations d'eau souterraine qui sont soit liées à des nappes phréatiques, soit liées à d'anciens bras de la Seine qui se remettent en charge lors des inondations. Et puis vous avez en plus des communications entre la surface et les sous-sols qui sont liés à justement ce gruyère parisien dont vous avez parlé, un enchevêtrement de canalisation qui fait que vous avez sous le réseau hydrographique naturel, la Seine et ses affluents, un deuxième réseau hydrographique artificiel. Le plus connu, c'est les égouts. Donc imaginez, l'eau de la Seine déborde, l'eau va aller dans les rues. Ces rues, il y a des plaques d'égouts. Ces égouts vont accueillir l'eau de pluie, ils vont accueillir l'eau de la Seine, ils vont se charger en eau. Et puis l'eau, elle va suivre le trajet des égouts. Et donc, elle peut se propager très loin. Elle peut aussi sortir de ces tunnels pour aller ailleurs. Alors, il y a des canalisations, il y a des bouches de ventilation, des bouches d'aération. Et donc, tout ça s'interpénètre. Et du coup, dans les sous-sols, il y a énormément de risques d'infiltration d'eau.
Surtout qu'il y a des habitants dans les sous-sols, ces canalisations.
Il y a des habitants qu'on a...
La fameuse nature en ville,
La fameuse Nathalie nature Blanc. En ville, on a des rats, en particulier dans ces égouts.
Il paraît.
Qui pose un gros problème sanitaire.
Donc,
alors les rats, on connaît tous la difficulté. Les rats, une fois que le réseau d'égouts va se remplir d'eau, ils vont sortir.
On a une idée, une estimation nombre.
On commence à avoir une estimation du nombre de rongeurs. Le problème de ces rongeurs, c'est que ce sont d'excellents nageurs qui sont capables de nager dans les canalisations. Donc, ils posent un problème d'hygiène. Alors, outre le fait que c'est toujours pas très agréable d'avoir des rats chez soi, il y a un vrai problème d'hygiène qui a été justement soulevé pendant l'exercice avec donc des propositions, des pistes, des études. Puisqu'en fait, ce type d'exercice, il a trois fonctions. Première fonction, c'est de tester sa planification.
Juste un instant, si vous le permettez, Magali Rexa, avant que vous ne développiez ce point. Donc, les rats, on a une petite idée, même très estimative, de leur nombre sous nos pieds.
Plusieurs, enfin, au moins 1 million, mais peut-être plus. Enfin, il y a beaucoup de bestioles en fait dans ces égouts. Alors,
une fois qu'elles sortent en raison du mécanisme que vous avez expliqué, l'eau s'infiltre, les nappes phréatiques débordent, les canalisations aussi. Ça veut dire que, dans cette hypothèse, ce million de rongeurs peut remonter jusqu'au 5e ou 8e étage.
Alors peut-être pas jusqu'au 8e étage, mais en tout cas, oui, ça va poser des problèmes. Il faut d'ailleurs dire que la nature en ville pose d'autres problèmes. D'abord parce que si l'eau stagne sur les chaussées pendant très longtemps, et là, c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tout simplement, les végétaux vont se décomposer, vont pourrir. Il y a des cadavres d'animaux dans la ville qui vont aussi pourrir. Donc, il va y avoir énormément de déchets organiques dans cette eau qui peut à un moment poser problème. Donc là aussi, c'est pris très au sérieux par les pouvoirs publics, puisqu'on sait que les eaux qui vont stagner vont être souillées à la fois par des matières organiques et puis par tout ce qui fait nos villes contemporaines. Je pense au bitume avec les métaux lourds, je pense aux hydrocarbures, je pense parfois dans le cas de, par exemple, certains hôpitaux qui ont dans leur sous-sol des produits radioactifs, il y a des risques de contamination. Je pense aussi à des produits chimiques qui pourraient être stockés ici et là. On a des sols pollués, on a des installations classées. Donc tout ça est très très surveillé pour éviter le risque sanitaire qui évidemment s'en suivrait l'inondation.
Alors, on va en venir donc au bilan que vous commenciez d'esquisser. Je voudrais, si vous le voulez bien, ça va, je pense, stimulant, vous proposer d'écouter une archive INA sur la grande crue de 1910, la dernière crue centennale, à moins que vous me disiez que celle de 1956 ou 55, vous la comptiez aussi comme une crue centennale. Mais
elle est cinquantennale.
Voilà, cinquantennale. En tout cas, donc, dernière crue centennale, celle de 1910, on écoute un témoignage.
En effet, je me souviens fort bien de ce désastre de Paris, envahi par les eaux en l'année 1910. Il faut le dire, la bonne humeur fut constante. Des soldats occupés à des échafaudages à barrages fragiles et les agents de police massés aux endroits dangereux. Et pendant que les eaux de la Seine montaient à la hauteur des quais en savissant le fameux zouave du pont de l'Alma, j'ai entendu chanter de braves soldats du génie opposant leurs efforts à l'envahissement des eaux. Le petit français, il faut le dire, qu'on croit sceptique et railleur, est étonnant de courage tranquille. Et M. Lépine était partout avec sa barbiche grise, partout à la fois, pour maîtriser et encourager les pauvres gens infortunés.
Monsieur Lépine, le fameux préfet du fameux concours. Alors, je le dis aux auditeurs, Magali Rexa, en écoutant cette archive, vous êtes passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et vous avez réprimé un grand éclat de rire. Pourquoi ?
Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que on a travaillé avec des collègues quand on a travaillé sur la résilience et on a pu montrer, on n'est pas les seuls, que souvent ces catastrophes, elles donnent lieu à des grands récits a posteriori où on réécrit un petit peu l'histoire, voire beaucoup l'histoire. Ici, on est à la veille de la Première Guerre mondiale, donc il y a eu tout un discours patriotique pour montrer à quel point le soldat était jovial, tout s'est bien passé. C'est une réécriture de l'histoire qui est quand même un petit peu abusive.
Et c'est une géographe qui le dit.
Et c'est une géographe qui qu'il dit, parce que derrière la carte postale et le côté sympathique, il faut quand même rappeler la réalité de ce que ça a été. On a eu notamment en banlieue des maisons qui se sont effondrées, on a eu des gens qui se sont retrouvés sans rien, on a eu énormément de chômage technique, les gens ont eu très froid, ils ont eu faim. Donc là, ça a été très très difficile. On a eu également des témoignages avec des émeutes, c'est-à-dire que il y a eu des gens qui ont été taxés d'être des pilleurs. Donc on a eu à certains moments des débuts de lynchage. Donc ça a été très très difficile. Alors évidemment, en 1910, on n'a pas du tout la même attente par rapport au confort qu'on aurait aujourd'hui. D'abord parce qu'on n'a pas évidemment les conditions de vie qui sont analogues à celles de 2016. Paris est à l'époque la ville lumière, donc on a quand même elle se targue d'être à la pointe de la modernité, en particulier l'éclairage au gaz. Mais évidemment,
et là ça s'arrête. Tout s'est arrêté.
Il y a une image, plus
d'éclairage au gaz.
Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle de l'air comprimé. Paris a tout un réseau d'air comprimé qui lui permet en particulier de faire fonctionner ses pendules.
Et évidemment, les fameux pneumatiques.
L'usine à air comprimé est inondée, elle s'arrête. Donc toutes les pendules de Paris s'arrêtent en même temps. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Mais dans la réalité, c'est vrai que les gens, et notamment la banlieue, qui était alors beaucoup moins développée qu'aujourd'hui, ont beaucoup souffert. Il faut aussi rappeler que l'inondation, elle a duré 45 jours. Mais qu'ensuite il a fallu sécher, il a fallu nettoyer. C'est une odeur absolument pestilentielle qui est restée pendant plusieurs mois. Alors c'est vrai qu'on a eu tendance ensuite à oublier, parce que forcément la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Il faut aussi rappeler qu'à l'époque, c'est le moment où on prend les premières photographies. Certaines personnes qui figurent sur les clichés n'avaient jamais vu un appareil photo. Donc c'est le début du reportage de presse où tous les jours on a une photographie en une des journaux.
Il y a un effet gondole à Venise-sur-Seine.
Il y a un effet gondole, d'autant qu'on fait. Donc on a deux figures très importantes.
Dans l'imagerie d'Épinal, je veux dire.
Dans l'imagerie d'Épinal, on a deux figures très importantes. La figure du conscrit. À l'époque, on a une armée de conscription. Donc on a 100 000 militaires. En fait, ce sont des conscrits, les piou-piou, qui ont une bonne popularité à l'époque. Et puis, on a des marins qui viennent, notamment des marins qui viennent de Bretagne, les pêcheurs à la morue de Terre-Neuve, donc de solides gaillards. La gare de Lyon, est transformée en débarcadère. Donc il y a tout cet imaginaire autour. Voilà, c'est Venise, c'est sympathique. Les dames sont en beaux costumes. On regarde, tout a l'air calme, tout a l'air apaisé. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les photographies après l'inondation, les effondrements de chaussées, les effondrements de maisons, pour voir en fait les dégâts qu'a pu causer la crue. Et ce qui est frappant, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé en 1910 et quand on regarde ce qu'il y a aujourd'hui, ça n'aurait quasiment plus rien à voir.
Vous pouvez comparer en tant que chercheuse, disons, les scénarios, les simulations d'une crue centennale dans l'Île-de-France aujourd'hui à ce qui s'est réellement passé en 1910. Et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Qu'est-ce que ça vous permet de partager avec les auditeurs? Et puis, quand même, c'est vrai que ça fait 17 minutes que l'émission a commencé. Il faut qu'on le fasse, ce bilan, selon vous, de cet exercice EU-Sequana 2016.
Eh bien, pour donner une comparaison rapide, en 1910, donc on a les gens qui sont inondés. Aujourd'hui, on est à peu près à 870 000 personnes inondées. Mais si on prend les gens qui ne sont pas inondés, qui sont touchés, on revient à l'exemple qu'on a donné en début d'émission de la Défense, on est à 1,2 million de personnes privées d'électricité, jusqu'à 5 millions de personnes qui seront touchées directement ou indirectement par l'inondation.
Et là, on n'est qu'en Île-de-France.
Là, on n'est qu'en Île-de-France. On sait qu'en 1910, il y a eu d'autres territoires en France qui ont été touchés. En termes de dommages immédiats, on est à peu près dans les estimations les plus pessimistes sur 30 milliards d'euros. C'est absolument considérable. C'est 30 fois plus qu'en 1910. Alors pourquoi? Parce que la métropolisation a concentré énormément de richesses, de biens de valeur, d'activités à forte valeur ajoutée sur les territoires inondés ou sur les territoires touchés. Mais si on regarde la dernière estimation de l'OCDE en 2014, si on prend sur 5 ans la perte de PIB attendue, on est à 60 milliards de produits intérieurs bruts. Excusez-moi, on est à 60 milliards d'euros, c'est-à-dire presque 3 points de croissance en moins sur 5 ans. Donc c'est des chiffres absolument considérables.
3 points sur 5 ans, pas 3 points par an pendant 5 ans.
3 points sur 5 ans, c'est quand même pas mal.
Oui,
60 milliards d'euros, sans compter les 30 milliards. Alors là, on ne rentre pas les dommages au réseau. Il faut aussi...
Ce que vous appelez les réseaux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
C'est
Internet,
tout...
le téléphone, l'électricité,
exactement.
L'eau, l'évacuation, le gaz,
les transports. On sait très bien, après, donc si on sort un petit peu de Paris, qu'on va avoir d'autres métropoles. Je pense à New York, après l'ouragan Sandy. Sandy en 2012.
New York avait été inondé, hein, il faut
le rappeler. New York avait été inondé, le métro a été inondé, c'est 20% du métro qui a été touché.
À New York en 2012.
Plusieurs années après, tout n'est pas reconstruit. Imaginez ce que coûte la reconstruction d'une seule ligne de métro, c'est absolument colossal. Et on pourrait faire la même chose sur les trains, sur l'électricité, sur le réseau d'eau potable.
Il y a des assurances, non ?
Alors, les assurances ne vont pas couvrir ce type de dommages. Alors, pour des tas de raisons. D'abord, parce que certains types de risques ne sont pas assurables. Dans beaucoup de cas, vous avez simplement le problème, c'est que vous n'allez pas être touché par l'eau, mais par les conséquences de l'inondation. Vous pouvez habiter très loin de la zone inondée. Et par exemple, votre entreprise au chômage parce que votre fournisseur, votre donneur d'ordre, parce que votre approvisionnement n'est plus là.
Ça, on l'a très très bien vu au moment de la catastrophe à la fois tsunami et nucléaire de Fukushima.
Tout à fait, avec des entreprises...
Des entreprises américaines qui se retrouvent au chômage technique.
Exactement, des sous-traitants en France qui n'avaient plus... parce que l'industrie automobile est située au Japon. Donc là, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans la mondialisation. C'est-à-dire dans ces métropoles...
L'industrie de la photo située à Bangkok qui dépendait complètement des commandes.
Le risque d'inondation en Île-de-France, il superpose deux logiques. La logique mégalopolitaine, et la logique métropolitaine. La logique mégalopolitaine, c'est l'exposition massive, beaucoup de monde concentré sur des petits espaces très exposés. La logique métropolitaine, c'est la logique de l'intrication, de l'imbrication du réseau, c'est-à-dire de l'interdépendance. Et c'est cette interconnexion qui, aujourd'hui, fabrique une deuxième couche de risque, un risque dans le risque, qui fait qu'en réalité, ça devient incomparable. Comparer Bangkok avec New York, comparer la Nouvelle-Orléans avec New York, comparer Paris avec Dakar ou avec Bombay, on est sur des villes qui, n'étant pas intégrées de la même façon à la mondialisation, n'ayant pas la même configuration spatiale, vont produire des risques totalement différents.
Je vous propose, Magali Riquezza, puisque vous évoquez Bangkok, d'écouter un extrait d'un reportage qu'avait fait à l'époque, lors des grandes inondations du 31 octobre 2011, Arnaud Dubus, le correspondant de Radio France à Bangkok, et bien entendu le correspondant permanent de RFI à Bangkok en Thaïlande et en Asie du Sud-Est.
Des militaires patrouillent le long des digues qui protègent le centre de Bangkok des inondations. Ils escortent aussi les employés municipaux chargés de renforcer ces murs faits de terre et de sacs de sable. Une protection nécessaire. À plusieurs reprises, des habitants se trouvant du mauvais côté des murs anti-inondation les ont démantelés. Dans les brèches, l'eau s'est engouffrée. Une équipe municipale construisant une digue a même essuyé des coups de feu. Dimanche soir, les résidents du quartier de Klong Samoa, dans le nord-est de la ville, ont détruit une digue qui bordait un canal alimentant le réseau d'eau courante. Des eaux usées et des ordures s'y sont déversées, obligeant la municipalité à avertir les Bangkokiens de ne plus consommer l'eau du robinet sans la faire bouillir. Les tensions se font aussi plus fortes entre ceux qui habitent à l'extérieur des murs et ceux qui sont à l'intérieur. Parfois, les frustrations explosent, comme quand un homme se lance avec une masse à l'assaut d'une digue. La chef du gouvernement, Yingluck Shinawatra, demande à tous les Thaïlandais de faire preuve de patience. Elle remercie ceux qui ont les pieds dans l'eau pour leur sacrifice.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Avec Magali Riquezza qui nous explique comment les mégapoles se préparent au risque d'inondation un peu partout dans le monde. On vient à l'instant d'écouter un reportage qu'avait fait à l'époque Arnaud Dubus. C'était à Bangkok lors de la très grande inondation du 31 octobre 2011. On a beaucoup parlé de Paris et de l'Île-de-France. On continue à le faire un instant. Est-ce que ce choix que vient qui nous a été rappelé à l'instant sur le gouvernement et la municipalité de Bangkok à l'époque, finalement, choisissent. Il y a des quartiers qu'on va laisser inonder, et puis il y a le centre-ville de la ville-centre qu'on va protéger. Est-ce que ce type de politique publique, vous qui avez travaillé, encore une fois, dans le cadre de la cellule de crise de cet grand exercice de simulation d'une crue centenale à Paris il y a 15 jours, en mars 2016, IU Sequana, est-ce que ce type de politique publique fait partie des options qui sont mises en place en France, en Île-de-France, qui pourraient l'être à Londres? On va parler de Londres, hein, il y a eu des inondations très importantes, c'était en 2014. Ou est-ce qu'une des différences qui peut caractériser, disons, les mégapoles des Sud et les mégapoles des Nord, c'est que justement, dans les mégapoles des Nord, supposées beaucoup plus riches, on arrive à protéger tout le monde?
Alors, on n'arrive pas à protéger tout le monde, mais c'est vrai qu'on ne sacrifiera jamais un territoire pour en sauver un autre. Parce que d'abord, politiquement, c'est absolument insupportable. En réalité, la question ne se pose pas exactement en ces termes, parce que selon les espaces dans lesquels on se trouve, on n'a pas les mêmes types de risques. On a des territoires dans lesquels on a plus de 2 mètres d'eau avec des vitesses très importantes. Donc, il faut absolument protéger les populations, c'est-à-dire de l'évacuation. Alors, auto-organisée, spontanée, ou dirigée, ou imposée. Là, on a plusieurs choix. À New York, par exemple, on a imposé l'évacuation. On a dit aux gens, vous partez. Voilà.
Ça a marché, parce que les gens n'étaient pas préparés, j'imagine.
Alors, ça a très bien marché, mais à New York, on a quand même 2 expériences. D'abord, on a Katrina, où là, on sait que l'évacuation est un échec. Katrina a vraiment servi de levier.
Ça, c'est la Nouvelle-Orléans.
C'est la Nouvelle-Orléans, bien 2005. Sûr. Pour travailler l'évacuation. Et puis, juste avant Sandy, il y a une première alerte à New York. C'est l'ouragan Irène, où le maire de New York fait évacuer la ville. Et puis, Irène passe un peu loin de New York. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Du coup, les gens, voilà, il y a une polémique. Est-ce qu'il fallait évacuer tout ça? Bon, l'année suivante, Sandy arrive. Le maire fait évacuer les quartiers. Alors, c'est de l'auto-évacuation, c'est-à-dire qu'on donne un ordre d'évacuer, les gens sont supposés se débrouiller tout seuls, et on se concentre sur les populations vulnérables, les plus faibles, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, etc.
Les SDF aussi ?
Les SDF, bien sûr. Alors, dans le cas de Paris, par exemple, on a toute la question des personnes sans papier, qui évidemment échappent au filet traditionnel, et puis ils vont pas forcément être enclins à suivre la police, les militaires, etc. Donc on a les territoires avec des vies humaines en jeu. On a ensuite des territoires dans lesquels on va maintenir les populations, même si c'est inondé, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de risque immédiat pour leur vie. Et puis on a des territoires qui ne sont pas directement inondés, mais dans lesquels la vie va devenir extrêmement compliquée du fait de ces pannes de courant, du fait des problèmes d'assainissement, du fait des problèmes de gestion des déchets. Donc en fait, on va avoir une gestion différenciée qui va se mettre en place selon les endroits où on se trouve. Avec évidemment en France et dans beaucoup de pays, hein, c'est le cas, la priorité c'est la vie des personnes d'abord. Alors ce qui peut poser des problèmes parfois de compréhension parce que évidemment on n'enverra pas les pompiers pomper votre cave parce que c'est, voilà, d'abord on sauve les gens et donc les pompiers seront mobilisés pour sauver des vies humaines.
Et en cas des risques incendies, voire des incendies qui vont se déclencher
Alors ça c'est la préoccupation.
Un peu partout et de manière inattendue.
Ça, c'est la
Qu'est-ce qu'on fait avec les pompiers ?
C'est une très grande préoccupation parce qu'on a vu à New York que le premier risque en cas d'inondation, c'est l'incendie.
Expliquez-nous ça, c'est tellement paradoxal.
Alors, pour deux raisons. D'une part, parce que les véhicules de pompiers vont avoir beaucoup de mal à se déplacer dans les zones inondées. Dès qu'il y a trop d'eau, on ne peut pas se déplacer. Si vos bouches d'incendie sont sous l'eau, l'eau ne monte pas, forcément. Il est aussi difficile d'appeler les secours quand vous n'avez plus de téléphone. Il y a des courts-circuits qui peuvent se produire. Les gens, en absence d'électricité, vont sans doute utiliser des réchauds à gaz, des bougies, avec tous les risques que ça peut comporter. Donc on est vraiment dans des situations où il faut une vigilance accrue avec des pompiers, des policiers, enfin tous les services de secours, toute la sécurité civile va devoir assurer ses missions du quotidien, l'infarctus, l'accident de voiture, enfin tout ce qu'ils font au quotidien où déjà ils sont débordés, et en plus rajouter le secours aux personnes dans des situations dégradées. Donc là c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors sur le cas de Bangkok, là on n'est pas du tout évidemment dans la même situation. Céline Pierdet, qui est donc une collègue géographe, a beaucoup travaillé sur ce sujet en comparant notamment Bangkok et Phnom Penh. Elle a écrit beaucoup d'articles passionnants qui sont en ligne, donc on peut vraiment les consulter. Et elle montre très bien en fait aussi comment dans ces mégapoles des Suds, on est en train de changer aussi son rapport à la gestion des risques. Et là, il y a une vraie différence entre les Nords et les Suds. C'est-à-dire que ces pays des Suds, il y a eu depuis des années, l'ONU a pris à bras-le-corps ces sujets. Donc pendant des années, on s'est contenté de travailler sur les aléas. Puis on est parti.
Qu'est-ce que vous appelez un aléa, juste ?
Alors l'aléa, c'est tous les processus physiques à l'origine de ces catastrophes. Donc on a beaucoup travaillé sur l'endiguement, on a beaucoup travaillé sur les barrages et on a investi des sommes absolument colossales dans la protection. Puis peu à peu, l'ONU, dans les années 90, a réorienté ses politiques vers la réduction de vulnérabilité, sachant qu'on a pu montrer que le faible développement des populations était un facteur de fragilité. Donc on pouvait ainsi lier les politiques de développement, de réduction de la pauvreté, d'alphabétisation, de santé publique, enfin toutes ces politiques qui font l'aide au développement à la réduction des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, on a une nouvelle inflexion qui prend deux directions. D'une part, la lutte contre le changement climatique, avec une tendance à lier changement climatique et changements environnementaux au sens large et inondations, et puis une réorientation vers ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité de rebond des sociétés face à des catastrophes.
Alors, il n'y a pas un petit risque avec ce concept de résilience, capacité de rebond des sociétés face aux catastrophes. Il y a un petit côté prenez-vous en main et tout ira
exactement.
Mieux.
Exactement. Et donc ça, c'est un peu la limite, la grosse limite de cette notion, c'est que
Actuellement promu par l'ONU et d'une manière générale.
Les deux cadres d'action, dont le cadre de Yogo en 2005, qui a été revu par le cadre de Sendai en 2015, font de la résilience maintenant la clé de voûte des politiques de gestion du risque.
Le cadre de Sendai, c'est-à-dire la province. Hein. Le Sendai, c'est la province dans laquelle se trouve.
C'est exactement ça.
Fukushima.
Donc c'est ce deux cadres d'action qui guident en fait, qui sont les cadres qui donnent les orientations des politiques de gestion à l'échelle internationale et ensuite qui vont se retraduire dans les différents États, parfois aussi à l'échelle des municipalités ou des gouvernements urbains. Donc on a cette injonction à la résilience qui, d'un certain côté, ouvre des perspectives. Quand vous vous trouvez dans certaines métropoles qui ont grandi très vite avec des inégalités majeures, la réduction de la vulnérabilité dans des situations où parfois il y a de la corruption, dans des situations où les populations, on a énormément de néo-arrivants, donc c'est très difficile de mettre en place des mesures de gestion rapides et efficaces. On a eu tendance à faire de la résilience une sorte d'horizon prometteur et radieux qui pourrait permettre de sortir des impasses.
On l'a vu au Chili en particulier, n'est-ce pas ?
On l'a vu au Chili, on le voit. Alors aujourd'hui, la résilience, même en France, hein, c'est devenu une clé de voûte des politiques. Le revers de la médaille, c'est que sous couvert de responsabiliser les populations et de leur permettre de s'auto-organiser, c'est aussi une légitimation pour finalement ne pas regarder les causes structurelles de cette vulnérabilité qui sont les causes politiques, les causes économiques, les causes sociales et sociétales. Et donc la résilience est aussi un prétexte intéressant, enfin un prétexte commode pour faire l'économie d'analyse qui pourrait remettre en cause l'ordre établi.
Dominique Lorrain, dans son livre qu'il avait dirigé, hein, qui s'appelait Métropole XXL en pays émergents, aux presses de Sciences Po, indiquait que le pire, c'était finalement en confiant, disons, une très grande marge de manœuvre aux promoteurs immobiliers, on fragmentait ces très grandes villes et que du coup, on avait énormément de mal à imposer une espèce de continuité des réseaux et des services publics.
Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Les catastrophes sont très intéressantes parce que finalement, elles permettent effectivement de lire la transformation urbaine et la transformation des territoires à toutes les échelles. On peut voir en particulier comment le foncier joue un rôle extrêmement important. Qui possède le sol ? On peut voir aussi des logiques libérales se mettre en place. Comment la ville aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, hein, mais comment certaines villes sont soumises à des logiques de marché qui ont tendance à faire oublier la sécurité des populations. On voit aussi apparaître, enfin, il y a la question récurrente des habitats informels, illégaux, précaires, la question des inégalités, la question des fragmentations. On peut même le rattacher à une question qui est brûlante aujourd'hui en géographie, qui est passionnante, qui est celle du droit à la ville, avec la question du droit à la sécurité dans le droit à la ville. Toutes les questions de l'inclusion et de l'exclusion sont présentes. Ce qui est aussi très intéressant quand on travaille sur ces catastrophes, je parle des mégapoles au sens de grandes villes, qu'elles soient métropole ou pas métropole.
Mégapole en un mot, on va dire, c'est
La ville de plus de 10 millions d'habitants. Enfin, la ville, là aussi, l'agglomération, la ville. Bon, L'organisme urbain, mais alors on va nous dire qu'on est organiciste. Enfin, là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ces généralisations, ces pluriels, quand on les confronte à la réalité des terrains, parler aujourd'hui de catastrophe dans une ville africaine, si tant est que ça ait un sens, ou dans une ville européenne, si tant est qu'elle ait un sens. Enfin, chaque ville et chaque territoire a sa propre trajectoire, sa propre histoire, son épaisseur culturelle, sa spécificité matérielle. Et donc, c'est très difficile de généraliser. En revanche, les catastrophes sont vraiment des clés de lecture qui permettent de mettre à jour des dynamiques que parfois on n'a pas vues. J'ai des collègues qui disent que les catastrophes, ce sont des catalyseurs. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que la catastrophe, elle va provoquer quelque chose. En réalité, elle provoque rien. Elle accélère des tendances qui étaient présentes, elle les révèle, elle les met au jour. Et du coup, ça permet de rentrer dans ces trajectoires urbaines qui ne sont pas linéaires, qui ne sont pas, on a l'impression qu'on part d'un point A à un point B dans une sorte de déterminisme de l'histoire. Pas du tout. Ces trajectoires urbaines, elles sont très complexes. Elles révèlent des rapports nature-société extrêmement compliqués. Elles révèlent des rapports aussi sociaux, des rapports politiques, des mutations économiques profondes. Et finalement, quand on parle de ces catastrophes, on ne fait rien d'autre que parler de territoire. Et pour nous, géographe, évidemment, là, on est chez nous, quoi. On est content parce qu'on a un concept extrêmement puissant qui va nous permettre de rentrer par-delà les récits, les territoires produisent d'eux-mêmes, dans vraiment ces questions de matérialité, d'organisation, de fonction, de système d'acteurs, d'échelle aussi. Donc tout ça, c'est très intéressant.
Est-ce que vous diriez, Magali Ragazza, à ce sujet, que le processus de métropolisation que vous évoquiez tout à l'heure, d'une part, et le processus de mégapolisation, d'autre part, seraient en eux-mêmes, disons, producteurs, sinon de catastrophes, en tous les cas de risques. Ou bien à l'inverse, quand vous parlez de révélateurs, les catastrophes comme révélateurs du fonctionnement urbain, est-ce que ça révèle justement comment les sociétés humaines, et en particulier les systèmes de gouvernance, auraient un temps de retard sur la manière dont les êtres humains font société au sein des organismes urbains ? Parce que il faut quand même avoir conscience que ce dont nous parlons en ce moment peut être tiré du côté d'un discours anti-urbain.
Oui, mais en même temps, on pourrait faire le même constat sur des sociétés rurales où on aurait d'autres. Voilà. L'idée, c'est qu'à un moment, on a toujours tendance à dire le risque naturel, c'est l'interaction entre un processus physique et une société. Il n'y a pas de risque dans le désert s'il n'y a pas société. Moi, je dirais plutôt.
Et on pourrait dire s'il n'y a pas de ville, s'il n'y a pas l'Île-de-France, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de Cézantenal.
Il y a des inondations dans les espaces ruraux, dans les territoires. Il y a toujours eu des. Alors là, on va enfoncer des portes ouvertes, hein, mais il y a toujours eu des inondations. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment à un moment donné, un processus physique qui peut se reproduire partout de la même façon, deux cyclones identiques, deux inondations identiques, soit deux époques différentes, soit sur deux espaces différents à un même moment, vont produire des choses différentes. Et au-delà de l'interaction nature-société, ce que nous révèlent ces catastrophes, c'est une interaction particulière entre un territoire, entre un système spatial, un système socio-spatial et un environnement biophysique lui-même transformé par l'homme. Et c'est ça qui est très intéressant.
Je vous propose d'écouter l'extrait d'un papier télévisuel qui avait été diffusé sur TV5 Monde le 13 février 2014. Là, il s'agit de Londres. C'est encore une situation différente ou spécifique. Et là aussi, vous allez nous dire si on peut néanmoins en tirer quelques conclusions de portée générale et en particulier pour la France.
Les chiffres sont imparables. Hiver le plus humide depuis 250 ans. Plus grand déploiement des pompiers et des secours depuis la Seconde Guerre mondiale. La Grande-Bretagne enchaîne tempêtes et inondations et crée d'autres îles comme ces maisons totalement coupées du monde. Le gouvernement britannique a été critiqué pour la lenteur de sa réaction tant que les inondations ne menaçaient pas Londres. Aujourd'hui, des milliers de soldats sont à pied d'œuvre. Ici, l'armée s'occupe des sacs de sable, mais une nouvelle polémique s'installe. Car ailleurs, d'autres municipalités ont décidé de les faire payer. 35 euros les 5 sacs, les habitants sont révoltés.
À la mairie, ils pourront aller se faire voir avec leurs impôts locaux. Plus personne ici dans cette rue ne paiera ses taxes.
Nous sommes à une heure de route du centre de Londres. Pour l'instant, les inondations les plus importantes se sont arrêtées ici. Ces bassins de rétention d'eau et cette vallée de la Tamise ont joué leur rôle en protégeant Londres, en épargnant la capitale britannique, au détriment des villages et des populations ici, qui, elles, ont les pieds dans l'eau.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Magali Ragazza, que non, c'était pas possible. Dans les mégapoles des pays des Nord, des pays développés, non, on ne pouvait pas discriminer et sacrifier des territoires au profit d'autres. Bon, là, reportage pris sur le vif, hein. Peut-être que la chercheuse a évidemment depuis vu les choses dans le détail, c'est pas l'impression qu'on a. Et puis pourtant, à l'époque, Boris Johnson, cité par le Figaro en ce même mois de février 2014, le maire de Londres, donc disait à propos de la ville de Londres, du Grand Londres, nous sommes aussi prêts que possible face à la catastrophe.
Alors, il y a plusieurs choses dans cet extrait. Le premier, c'est que Il y a toujours eu dans la défense contre les inondations des territoires qu'on a volontairement inondés. Par exemple, quand dans les systèmes de protection de digues, je pense à la Loire, mais on pourrait parler du Mississippi, c'est la même chose, on a ce qu'on appelle des déversoirs de crues, c'est-à-dire on fait des brèches dans la digue pour inonder ces territoires.
À Paris, ça serait quoi ?
Alors,
ça serait le RERC, le champ de Mars.
Pas du tout, non. Alors, soit on a des champs naturels d'expansion des crues, soit on en crée. Et le problème.
Donc là, on est en amont de Paris.
Le problème, c'est que souvent, ces champs d'expansion des crues, soit c'est des terres non bâties, non agricoles, soit c'est des champs parce que on sait
des
que.
Des terres agricoles.
Parce qu'on sait qu'en les inondant, on perd très très peu. Le problème, c'est que les dynamiques d'urbanisation et surtout de périurbanisation ont conduit à occuper ces champs d'expansion des crues. En Île-de-France, c'est dans les champs d'expansion des crues qu'on a mis l'urbanisation entre les années 80 et aujourd'hui. Dans la Loire, c'est même mieux, on a carrément construit des maisons, des quartiers dans des déversoirs. Là, c'est carrément criminel puisque c'est des espaces qui sont inondés volontairement. Et donc aujourd'hui,
en cas de crue.
Et donc aujourd'hui, évidemment, on se rappelle que c'est des déversoirs et donc on est obligé d'exproprier les gens, on est obligé soit de reconstruire des digues. Enfin, tout ça est très compliqué. Donc il y a effectivement des territoires qui se retrouvent inondés aujourd'hui, mais qui l'ont toujours été. Simplement, on a mis des gens, des maisons, à des endroits où on n'aurait pas dû les mettre. Ça, c'est le premier point.
Mais on n'aurait pas dû. Ça, c'est le chercheur qui parle ou c'est le chercheur qui connaît le droit qui parle ?
Les deux. C'est-à-dire que on peut habiter n'importe quelle zone inondable. Le problème, c'est que ça a un coût. Ça a un coût de protection et puis ça a un coût d'endommagement. Or, ce coût n'est jamais explicité. On peut très bien dire aux gens, écoutez, vous allez habiter dans cet endroit, vous allez avoir en moyenne une inondation tous les 30 ans qui vous coûtera tant en moyenne. Vous prenez la décision d'habiter ou pas. On peut aussi dire, pour d'autres raisons, on a urbanisé ce territoire parce qu'il était nécessaire de le faire. Je donne un exemple très concret. En Île-de-France, la plupart des territoires en renouvellement urbain sont en zone inondable. On a besoin de réurbaniser ces territoires parce qu'il y a des enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui fait qu'à un moment donné, la société décide qu'il faut les urbaniser.
Vous pouvez donner un ou deux exemples?
Vitry-sur-Seine, le quartier de la Seine-Amont, par exemple, les Ardoines, qui est un très beau projet aujourd'hui d'aménagement. Ce sont des territoires industriels qui sont en reconversion. Il y a du chômage, il y a des problèmes environnementaux, parce que la friche, ça crée aussi des difficultés environnementales. Il y a un besoin de développement économique. Alors on pourrait dire et opposer, oui, mais la décroissance. Nos sociétés font des choix qui sont d'ailleurs pas toujours démocratiquement expliqués et démocratiquement décidés, mais peu importe. On décide de réurbaniser. Simplement ensuite, si vous voulez urbaniser des espaces inondables, ça veut dire qu'il faut construire d'une certaine façon. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des protections qui vont coûter cher. Et on en revient à ce que disait le reportage sur Londres, c'est qui paye ? Est-ce qu'après tout, on peut très bien considérer que des gens qui ont décidé de s'installer en zone inondable parce qu'ils ont trouvé des avantages doivent payer ? Ou au contraire, considérer que ça fait partie de la solidarité nationale d'assurer à chacun un certain niveau de sécurité, d'accès à la protection ? Ça, ce sont des choix de société qui n'ont pas été les mêmes dans l'histoire des territoires, qui ne sont pas les mêmes quand on est aux États-Unis, quand on est en Angleterre, quand on est en France. Et donc ça explique aussi que ces questions de sécurité que l'on retrouverait sur les attentats, on a exactement le même problème. À un moment, quel est le coût que la société est prête à payer pour assurer sa sécurité? Et là, on touche à des questions de justice et d'injustice. Et c'est pour ça que souvent, on a tendance à rattacher ces catastrophes à des questions de justice environnementale. On sait très bien que pendant des années, on a mis dans les zones inondables les gens qui étaient les exclus, les pauvres. Au Moyen-Âge, on mettait les pestiférés dans la zone inondable. Donc souvent, on a construit dans les zones inondables parce que ça coûtait moins cher. Donc on a mis tels immeubles qui aujourd'hui sont tels quartiers, qui sont aujourd'hui des quartiers sensibles, par exemple. Souvent aussi, la zone inondable est moins cher, donc ça va être des personnes qui vont pouvoir, elles peuvent pas se payer telle zone, alors elles vont se payer telle autre. On a aussi beaucoup d'habitat illégal qui a ensuite été légalisé. Ça marche pas partout. En Île-de-France, plus on s'approche du fleuve, plus cher c'est parce qu'on a la vue sur le fleuve, on a l'aménité paysagère, etc. Donc là encore, les choses sont très très différentes, mais dans tous les cas, il y a à un moment donné une décision à prendre. Je peux pas, évidemment, on n'a pas des budgets extensibles, on n'a pas un temps extensible. Donc c'est qu'est-ce que je peux faire, comment je priorise mes moyens. Et là, je pense que alors en France, on a aujourd'hui une directive européenne qui, par exemple, impose la définition de TRI, de territoire à risque important.
C'est une directive de 2007, n'est-ce pas ?
C'est une directive de 2007 qui a été appliquée en droit français après le Grenelle, donc en 2011. Ces territoires, ces TRI, si vous avez des territoires à risque important, ça veut dire qu'on va probablement concentrer les moyens sur ces territoires. Ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on fait pour les territoires qui ne sont pas TRI. C'est un choix de société. Et je comprends très bien que des gens disent, écoutez, voilà, moi j'ai fait le choix de ne pas habiter en zone à risque, je ne vois pas pourquoi je paierais pour le voisin. Mais peut-être que le voisin, lui, il n'a pas fait le choix d'habiter dans une zone à risque.
Mais là, on ne parle que de l'habitat, parce que tout à l'heure, vous évoquiez le coût économique.
Alors, le coût économique est aussi très important, mais là encore, d'abord parce qu'il y a des activités qui, historiquement, ont eu besoin de la voie d'eau. On s'est mis à côté soit de la voie d'eau parce que c'était une voie de transport. La vallée, c'est quand même bien pratique parce que c'est plan, on a implanté énormément d'infrastructures logistiques. Certaines industries ont besoin d'eau, tout simplement, donc elles sont en bord de fleuve. Donc l'eau, c'est une ressource au départ, hein. Il faut quand même rappeler, ça semble évident, mais c'est une ressource. Et donc là aussi, toute ressource a un pendant négatif qui est le risque. Et là encore, ça va dépendre de l'acceptabilité de ce risque. Cette acceptabilité, elle est socialement construite, elle est très très variable dans le temps, elle est très très variable sur les sociétés dans lesquelles on se trouve. Et donc c'est vrai que l'idée de sacrifier, quand on va dire on sacrifie tel quartier, aujourd'hui en France, c'est pas possible parce que ça serait perçu comme injuste. Moi, en tant que chercheuse, j'ai pas à dire, j'ai mon avis là-dessus, mais je ne suis pas normative, je dis pas ça c'est juste ou ça l'est pas. Je dis simplement, nous allons tous raisonner en termes de juste et d'injuste, et donc décider que oui, le coût est supportable ou que non, le coût ne l'est pas.
Et pourtant, dans le reportage de TV5 Monde sur Londres, on peut avoir le sentiment qu'il y a des choix qui ont été faits par les autorités. Mais précisément, dans un de vos ouvrages, celui que vous avez dirigé, que vous avez publié, je crois, en 2013, vous me corrigerez si je me trompe, ouvrage collectif que vous avez donc dirigé avec Géraldine Djamant-Trane, Résilience urbaine et villes face aux catastrophes, vous avez une série de monographies, dont l'exemple de Londres, que vous comparez avec Bucarest ou avec Phnom Penh, par exemple. Donc, précisément, la chercheuse que vous êtes peut-elle établir, je dirais, faire un peu de benchmarking, de comparaison entre ce qui s'est fait dans ces différentes villes et du coup peut-être dire avec cette vision panoramique un peu surplombante, voilà ce qui marche, voilà ce qui est efficace, voilà ce qui est juste et voilà ce qui l'est moins.
Alors ça dépend vraiment des espaces. On sait que dans certains endroits, et le cas de Londres est intéressant, on a besoin d'un certain nombre d'infrastructures techniques qui fonctionnent. Hein, la barrière qui est évoquée dans le reportage de TV5 Monde, la grande barrière de Londres, on va aux Pays-Bas, un système de digues et d'endiguement extrêmement performant, voilà. Malheureusement, ça ne suffit pas, donc c'est nécessaire mais pas suffisant. On a ensuite toutes les instruments de zonage urbain. Alors la France, c'est paradoxal parce qu'en France, on a tendance à dire que ça marche pas très bien. C'est le système des plans de prévention des risques, les fameux PPR, que beaucoup de pays européens regardent et se disent on aimerait bien avoir la même chose. Et nous, en France, on peut montrer aussi que ça marche pas très bien, et en tout cas pas partout comme il faudrait que ça marche. Et puis l'action sur la vulnérabilité des populations. Mais derrière tout ça, avant même de faire ce benchmarking, il faudrait la poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être prêt ? Le maire de Londres dit, on est prêt. Mais qu'est-ce que c'est être prêt ? Et on pourrait reposer et reboucler sur le début de l'émission avec qu'est-ce que ça veut dire être prêt à l'inondation ?
Il y a du temps. Est-ce que le bilan que vous faites en tant que chercheuse de cette opération de simulation, de crue centennale, en Île-de-France, vous en tirez la conclusion qu'on est prêt, ou du moins jusqu'à quel point est-on prêt en France ?
Alors je dirais que dans « on est prêt », il y a deux choses. On ne sera jamais prêt, parce que de toute façon les territoires évoluent, et à chaque fois qu'on se prépare, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Deuxièmement, être prêt, c'est d'abord une question de perception. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils verront de l'eau dans les rues, à partir du moment où il n'y aura pas de courant, à partir du moment où il y aura des pertes économiques, ils diront « on a raté ».
À New York, Magali Regezza, c'est ça qui s'est passé ?
À New York, il y a les gens qui sont restés 6 mois sans électricité, qui ont perdu leur maison, ils ont pas été contents et ils ont eu raison de pas l'être.
Ça faisait combien de personnes à peu près ?
Oh, des centaines, des milliers. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup souffert, notamment en dehors de l'État de New York, parce que là encore, c'est des résidences individuelles, c'est des mécanismes très particuliers, là aussi, de foncier, d'accès à l'assurance. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc effectivement, pour la victime, on n'est jamais prêt. Quel est le seuil de tolérance d'une société face à une catastrophe ? Est-ce qu'on dit qu'on l'a échappé belle parce qu'on n'a que 2 ou 3 milliards ? Je rappelle quand même qu'une catastrophe en France, les catastrophes, c'est entre 400 millions et 1 milliard d'euros. Là, on nous annonce quelque chose à 30 milliards. Si on a une catastrophe à 5 milliards, ça sera un vrai succès. En même temps, par rapport au reste, c'est déjà considérable. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire être prêt ? Moi, je pense que l'exercice Sequana, il a trois avantages. Premièrement, On n'est peut-être pas prêt, mais on se prépare. Et ça, c'est essentiel, parce que plus on se prépare, plus le jour J, on pourra faire face, sachant qu'il va y avoir de l'improvisation, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des choses qu'on n'a même pas identifiées encore aujourd'hui.
Mais alors, c'est qui on, Magali Regazza?
Alors, on, c'est tout le monde.
Nous, à la Maison de la Radio, bon, voilà, on a joué le jeu, on a mis un espèce d'énorme boudin autour de la Maison de la Radio pour faire un peu digue flottante et amovible. Bon, très bien, mais il y a les salariés des 87 organismes et entreprises dont vous parliez tout à l'heure.
Je rappelle qu'en France, la loi dit que chacun est acteur de sa propre sécurité. Alors évidemment, ça n'a aucun... Enfin, ça veut dire être acteur de sa propre sécurité.
C'est un slogan.
C'est pas débrouille. C'est inscrit dans la loi.
Hein. Certes.
Voilà.
Ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare à ne pas pouvoir être assuré en cas de catastrophe.
Alors, chacun, c'est tout le monde. Il y a effectivement l'ensemble des services de secours, des pouvoirs publics. Il y a aussi l'ensemble des gestionnaires de réseau. Mais ça peut être aussi le citoyen lambda qui, à un moment donné, va aider le SDF, va aider la personne âgée à côté. On est vraiment dans de la solidarité collective. C'est vrai que cet exercice, il a permis de faire plusieurs choses. Il a permis, d'une part, de tester les planifications et de montrer qu'il y a certaines choses qui marchent bien, il y a d'autres choses qui marchent pas.
Par exemple ?
Par exemple, on sait très bien sur la communication, on a vu par exemple que le rôle des médias sociaux. Alors on a vu que certains vecteurs ont très bien marché, d'autres vecteurs c'est encore compliqué, on ne sait pas forcément comment les utiliser. Ça a aussi fait émerger des problèmes, soit des problèmes qu'on connaissait, les rats par exemple, mais où là on s'est dit bon ben maintenant... on a sensibilisé le public là-dessus, on va pouvoir agir et travailler en cette direction. Alors ça peut être des choses complètes auxquelles on ne pense pas. Les billets de banque, c'est tout bête, hein, mais il n'y a plus d'électricité, les rues sont inondées, comment les convoyeurs de fonds arrivent au distributeur pour mettre des sous dans le distributeur? Comment vous payez votre baguette si la carte bleue, ça ne fonctionne pas? Vous voyez, c'est des choses toutes simples. On s'est rendu compte, par exemple, que les écoles, on se dit, bon, c'est très bien, il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas d'école, si les enfants ne sont pas gardés, leurs parents ne peuvent pas aller travailler. Si les parents ne peuvent pas aller travailler, les parents qui travaillent dans de la gestion de crise, ils ne peuvent pas aller travailler parce qu'à un moment, il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants aussi. Donc si les professeurs ne peuvent pas aller travailler, il n'y a pas d'école. Mais si les dames de service de la cantine, ou les hommes maintenant de service, d'ailleurs, désolé pour le genre, les personnes qui font le ménage, si les personnes qui s'occupent de l'entrée à la conciergerie ne peuvent pas venir travailler... Il n'y a pas d'école. Donc, on a commencé vraiment à prendre conscience, enfin, pas à prendre conscience, mais tout le monde a saisi le fait qu'on était tous dépendants les uns des autres. Et ça, c'est essentiel, parce que on le savait, mais le jeu avec beaucoup de guillemets,
le jeu au sens du jeu
a
drôle,
permis vraiment que chacun se rende compte que même en étant en fabriquant du café dans la cellule de crise, cette personne-là, elle est essentielle, parce que quand vous avez une crise qui dure pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, la dimension accompagnement psychologique, accompagnement confort élémentaire, elle est essentielle. Et donc, on a vu comme ça émerger des choses que les gens qui travaillent dans la gestion de crise connaissent. Mais là, on a changé d'échelle. Et puis, il y a eu toute l'information et la sensibilisation des pouvoirs publics. Moi, j'ai fait ma thèse en 2006. La crue de la Seine, ça intéressait personne. Que 10 ans plus tard,
ça
l'Europe...
Ça a fini par intéresser Fayard, quand même.
Non, mais ça a fini par intéresser Fayard. Mais vous voyez, c'est des sujets dans lesquels, quand on voit l'ampleur de la crue, et quand on voit les sommes qui sont allouées aujourd'hui à ce type d'événement, il y a quand même une distorsion absolue. Sachant que, et là-dessus aussi, on peut avancer, ce qu'on fait sur la crue, ça sert à plein d'autres choses. C'est-à-dire que ce qu'on apprend, les leçons qu'on tire de la gestion de crise pour la crue de la Seine, ça sert aussi bien pour un attentat que pour une pandémie, que pour un accident industriel, que pour une grève générale, que pour plein de choses, que pour une panne généralisée. Aujourd'hui, nos métropoles, elles sont extrêmement vulnérables à ce type de panne. Une panne de chauffage pendant l'hiver, ça peut tout de suite créer des problèmes. On se rend compte, par exemple, vous avez aujourd'hui énormément de personnes qui sont hospitalisées à domicile. Pour ces personnes-là, la moindre panne de courant, ça peut devenir mortel.
Alors du coup, on fait quoi ? C'est quoi les préconisations ou les idées de pistes de solutions qui ont émergé pendant cet exercice ou qui émergent lorsque les autorités franciliennes, parisiennes et françaises vont voir leurs homologues à New York ou à Bangkok? Parce que je suppose, vous allez nous le dire, que les autorités des mégapoles concernées sont en contact
pour faire
du retour d'expérience.
On travaille beaucoup sur du retour d'expérience. Alors, il y a plusieurs choses qui sont proposées aujourd'hui. D'abord, on a identifié des pistes de recherche, des pistes de tel point on n'y avait pas pensé, tel point on savait que c'était important, mais là on se rend compte que c'est prioritaire.
Donc des pistes de recherche financées, c'est-à-dire il y a des financements qui sont débloqués.
On espère. Ça, c'est le problème, c'est le financement.
Quand vous dites on, c'est les chercheurs.
Les chercheurs, mais aussi
c'est pas encore les pouvoirs publics.
Mais mais aussi les pouvoirs publics. On dit par exemple, voilà, dans notre plan, tel volet, là, il faut qu'on creuse parce qu'on se rend compte qu'on pensait que ça fonctionnait, ça fonctionne pas comme on le voudrait. On a aussi un nouvel élément qui est que là, on s'est rendu compte à quel point la communication, la coopération, les échanges entre les différents partenaires sont essentiels. Et là, il y a un simple problème, c'est qu'il faut que ça dure dans le temps. Ce type d'exercice, on peut pas le faire tous les ans. Ça coûte très cher, ça mobilise beaucoup de monde. Il faut pas que ça soit Sequana en mars 2016 et puis qu'ensuite, il se passe plus rien. Les gens se sont vus dans la cellule de crise et puis pendant 15 jours et puis ensuite, ils se voient plus.
Puis après, ils oublient. Puis après, les gens changent de poste. Donc
l'idée, c'est vraiment de créer une dynamique et une synergie qui va sans doute s'inscrire dans la stratégie territoriale de lutte contre les inondations pour essayer de pérenniser ces systèmes-là.
Et au-delà de l'Île-de-France, est-ce que ça va aussi profiter à l'ensemble du territoire français, voire européen, puisque comme vous l'avez dit au début, l'Union européenne et plusieurs États membres étaient très concrètement impliqués.
Il y avait des observateurs, notamment les observateurs tchèques, qui eux ont connu les inondations tragiques de Prague et à plusieurs reprises.
Grandes inondations d'Europe centrale en août 2002.
Avec donc vraiment des dommages majeurs, notamment au métro. Ensuite, on a ces pistes de recherche, on a ces travaux, on a ces groupes de travail qui vont se mettre en place. Ça a aussi permis deux choses. Ça a d'abord permis d'informer les acteurs privés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises et notamment des PME-PMI qui se sont rendus compte qu'il y avait un risque. Et pour ces PME-PMI, c'est très compliqué parce que les plans de prévention, les plans de continuité d'activité, ça coûte cher. Elles sont pas forcément bien informées. Donc ça se développe. Et puis, ça a aussi permis de sensibiliser le grand public.
Mais alors, on fait comment? Attendez, excusez-moi, c'est très important. Les PME-PMI, concrètement, alors du coup, on fait comment pour pallier ce problème qui a été identifié?
Alors, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille. Il existe aujourd'hui alors des tas de façons de monter des plans de continuité d'activité. Et là encore, il n'y a pas une réponse simple. Vous êtes une boulangerie, vous n'avez pas les mêmes problèmes que si vous êtes une entreprise de services. Je pense à un exemple très précis, la question des data centers.
Ces
centres qui vont stocker des données qui sont essentielles pour certaines entreprises. Si on perd les données informatiques, il n'y a plus d'entreprise. Dans le cas d'une entreprise qui va travailler sur des biens manufacturés, la machine, c'est important. Et si on perd la machine, on perd l'outil d'activité. Si vous, certaines entreprises de services, vous perdez un ordinateur, ce n'est pas grave. Si vous perdez les données qu'il y a dans cet ordinateur, il n'y a plus d'entreprise. Et donc, vous voyez, là aussi, on va devoir avoir une information très différenciée qui est liée à l'hétérogénéité urbaine qui est le propre de ces métropoles. Et puis, le dernier élément sur lequel il faut insister, c'est l'accompagnement des populations. Quand on vit dans une grande ville aujourd'hui, ou même pas dans une grande ville d'ailleurs, on est sans cesse soumis à des messages qui nous disent qu'il y a des risques. Pour ceux qui vivent à Paris aujourd'hui, en Ile-de-France, avec le plan Vigipirate et l'opération Sentinelle, et les risques terroristes, on est baigné dans cet climat quelque peu anxiogène.
Dès que vous voyez un colis abandonné, exactement, ou une valise toute seule, surtout faites quelque chose,
et donc,
prévenez.
Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que se développe un certain nombre de consignes de sécurité. On voit par exemple que les pompiers font des formations au premier secours en cas d'attentat. On voit que partout maintenant dans les établissements publics et privés, on a ces espèces de petites BD qui nous disent quoi faire. Exactement ce qu'on a fait sur l'incendie. L'idée, c'est d'arriver à, sans effrayer les populations, à donner au bon moment les bons messages comportementaux aux bonnes personnes. Je donne un exemple. L'eau est là, il ne faut pas la toucher parce qu'elle est polluée, elle est contaminée. Donc c'est des messages, et là aussi, évidemment, quand on va parler aux populations, si je vous donne un message aujourd'hui pour une crue qui arrive dans 10, 50 ou 100 ans, ça n'a aucun intérêt.
Justement, Magali Reghezza, c'est quand même la question qu'il faut que je vous pose, je l'ai gardée pour la fin. C'est quand la prochaine crue centennale en Île-de-France?
Si je le savais, je serais milliardaire.
D'accord, mais...
Si je le savais, je deviendrais Madame Soleil et je ferais la rubrique horoscope sur les... On ne peut pas le savoir, ce qu'on sait,
c'est... On vous accueillerait volontiers sur France Culture pour le faire, mais dites en nous un petit peu plus.
C'est une chance sur 100 par an d'avoir un débit analogue à celui de 1910. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que d'abord, on a un débit analogue. La hauteur d'eau peut être très différente parce qu'il va y avoir des barrages, des digues, etc. Une chance sur 100 par an, ça veut dire que sur 80 ans, c'est-à-dire la vie d'un Français, la vie moyenne d'un Français, il a 2 chances sur 3 de l'avoir. Ça veut dire qu'il a quand même une chance sur 3 que ça n'arrive pas. Donc voilà, on joue au dé. Hein,
Sauf que là, ça fait plus de 100 ans que c'est pas arrivé.
Alors, il peut y en avoir 3 d'affilée, et puis plus pendant 300 ans. Quand vous jouez à pile ou face, vous ne tombez pas un coup sur pile, un coup sur face. Ben là, c'est pareil. Il y a des siècles où on a eu plusieurs crues supérieures à 7 mètres. À 7 mètres donc au pont d'Austerlitz, il y a des siècles où on n'a pas eu d'inondation. Une des grandes questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est Les changements climatiques et les changements environnementaux futurs vont-ils avoir un impact ou non sur la récurrence et l'intensité de ces inondations?
Eh bien, on en restera sur cette question, Magali Reguenza, car Planète Terre, c'est fini pour aujourd'hui.
Abominable. Heureusement tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou.
Magali Reguenza, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. On se quitte donc en musique avec Jane Birkin qui chante Lagadou. Les liens vers vos publications, Magali Reguenza, dont Paris Coultil et dont Les villes face aux catastrophes, sont sur le site web de France Culture à la page de Planète Terre. L'émission s'intitulait donc Les mégapoles face au risque d'inondation. Je pourrais ajouter face au risque d'inondation eau en particulier et à tous les risques en général. Luc-Jean Reynaud, Clément Daté, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de cette émission. Cette émission, vous pouvez l'écouter à nouveau en ligne, bien sûr, pendant 1000 jours. Vous pouvez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger durant une année. Vous pouvez également la suivre et la partager à partir des comptes Facebook et Twitter de l'émission. Je vous remercie tous de votre fidélité et de votre attention. J'en profite pour dire que demain, jeudi, à 16h, Culture Science vous proposera, avec la marche des sciences d'Aurélie Luneau, le sujet du centenaire, non pas de la crue, mais du centenaire de heure d'été, heure d'hiver, des changements qui nous rendent chèvres. Ça sera l'émission d'Aurélie Luneau demain à 16h.